Chapitre 19. Le choix d'un bandeau. Quand Elaine trouva Bachéré, il faisait les 100 pas le long de la berge orientale du fleuve. Pour la jeune reine, le bord de l'eau était un des derniers endroits qui semblait vivant ces derniers temps. Il y avait tant de désolation désormais. Des arbres sans feuilles, de l'herbe rachitique, des animaux tapis dans leur tanière et refusant d'en sortir. Le fleuve, au moins, continuait de couler. Même si la végétation restait piteuse, c'était un signe de vie. La rivière Alguenia comptait parmi ces grands cours d'eau qu'on jugeait placides de loin, mais qui pouvaient sans difficulté entraîner une femme dans leur flot et la noyer. Pendant une partie de chasse, des années plus tôt, Brian avait fait la leçon à Gawain sur ce sujet. Bien entendu, il s'adressait aussi à Elaine, même s'il avait toujours pris garde de ne pas outrepasser ses prérogatives face à la fille héritière.
« Attention au courant !» avait-il dit. « En eau douce, c'est un des pièges les plus dangereux qui existent sous la lumière. Uniquement parce que les hommes sous-estiment ce phénomène. L'onde peut paraître étale quand rien ne tente de lutter contre elle. Or, les poissons se laissent entraîner par le courant, et les hommes s'en tiennent loin. Sauf les idiots qui cherchent à frimer. »
Elaine avança sur la berge rocheuse. Ses gardes restèrent en retrait. Pour une fois, Birgit n'était pas du lot. À des lieues en aval, elle supervisait les compagnies d'archers occupées à cribler de flèches les radeaux chargés de trolloques qui tentaient de traverser le cours d'eau. Avec l'aide des dragons de Talmanès, la championne faisait un massacre. Pourtant, tôt ou tard, des hordes de monstres se déverseraient sur l'autre rive. Elaine avait retiré ses forces d'Andorre une semaine plus tôt. Longtemps, Bachéré et elle avaient été satisfaits de leurs résultats, jusqu'à ce qu'ils découvrent le piège.
« Stupéfiant, pas vrai ?»
lança la jeune reine en se campant à côté de Bachéré. Le maréchal la regarda et hocha la tête.
« Nous n'avons rien de comparable au pays. »«
Et la Rinelle ?»«
Elle n'est jamais aussi large avant de sortir du Saldaïa. Ici, on dirait presque qu'un océan sépare les deux rives. À l'idée de la réaction des Aiel quand ils ont vu ça, après avoir traversé la colonne vertébrale du monde, je ne peux m'empêcher de sourire. »
La reine et le militaire se turent un moment.
« C'est mauvais à quel point ?»
demanda soudain Elaine.
« Très mauvais. J'aurais dû comprendre que la lumière me brûle. Ça crevait les yeux. »«
Tu ne peux pas tout prévoir, Bachéré. »
« Désolé, mais c'est exactement ce que je suis censé faire. »
La progression vers l'est, à partir du bois de Brahem, s'était déroulée selon le plan. En brûlant les ponts sur le fleuve Erinin et la rivière Alguenia, les forces d'Elaine avaient contraint les trolloques à tenter de traverser derrière elle. À présent, elle était sur la route qui remontait vers la capitale du Kyrien. Bachéré avait décidé que la confrontation finale avec les trolloques aurait lieu dans des collines qui se dressaient le long de cette voie, à 20 lieues au sud de Kyrien. Les ténèbres avaient plusieurs coups d'avance sur la lumière. Au nord de la position actuelle d'Elaine, des éclaireurs avaient repéré une seconde armée de trolloques en route pour la capitale du Kyrien, vidée de ses défenseurs par la reine pour grossir les rangs de son armée. Désormais, la cité était remplie de réfugiés, à l'instar de Kemlin quelque temps plus tôt.
« Comment ont-ils réussi ça ?»
demanda la jeune reine.
« Ces trolloques ne peuvent pas venir de la brèche de Tarwyn. »
« Ils n'auraient pas eu le temps, » approuva Bachéré.
« Les chemins, encore ?»
« Peut-être, mais peut-être pas. »«
Comment alors? D'où vient cette armée ?»
Une horde de monstres assez proche de Kaerien pour toquer à ses portes.
« J'ai commis l'erreur de penser comme un humain, »
dit Bachéré.
« J'ai tenu compte de la vitesse de marche des trolloques, mais pas de la façon dont les Myrdraal peuvent les pousser au-delà de leurs limites. Une erreur grotesque. Dans le bois, l'armée adverse a dû se séparer en deux. » Une moitié fonçant directement vers le nord, en direction de Kaerien. C'est la seule explication que je trouve.
Nous avons progressé aussi vite que possible,
dit Elaine.
Comment ont-ils pu nous devancer?
Ses forces disposaient de portails, mais pas en nombre suffisant, faute de personnes capables de canaliser, pour que tout le monde puisse y recourir. Cela dit, elle pouvait faire voyager les véhicules de l'intendance, les blessés et les civils utiles. Du coup, les soldats avançaient sans entrave au rythme de militaires bien entraînés.
« Nous avons marché aussi vite que possible, sans prendre de risques, »
corrigea Bachéré.
« Un officier humain ne pousserait jamais ses hommes au point que certains tomberaient de mort. Les trolloques ont coupé par la forêt, sur un terrain très accidenté. Des cours d'eau et des marécages à traverser, de jour comme de nuit. Par la lumière, des milliers de monstres ont dû tomber d'épuisement. Les blafards ont accepté de payer ce prix, et maintenant, ils nous ont pris dans un étau. Kairienne risque d'être détruite.
Je ne permettrai pas que ça arrive,
dit Elaine après un long silence.
Pas une deuxième fois. Il faut tout faire pour empêcher ça.
Est-ce seulement possible?
J'en suis sûr. Pas chéré. Tu es un des plus grands génies militaires du monde. Et tu disposes de ressources qu'aucun chef n'a jamais eues. Les dragons, la famille, des ogiers résolus à se battre. Tu peux réussir, je le sais.
Pour quelqu'un qui me connaît depuis peu, tu me fais une grande confiance.
Rand se fie à toi. Même durant les pires moments, quand il regardait presque tout le monde avec suspicion, il n'a jamais douté de toi.
Bachéré parut ébranlé.
Il y a un moyen.
Lequel ?
Avancer le plus vite possible et frapper les Trollocs près de Kairienne. Ils doivent être fatigués. Si nous les écrasons avant que la horde venue du sud soit là, nous aurons une chance. Mais ce sera difficile. Les Trollocs du nord veulent probablement prendre la capitale et s'en servir contre nous quand ceux du sud arriveront.
Pouvons-nous ouvrir des portails en ville puis la tenir ?
J'en doute. Pas dans l'état où sont nos Aes Sedai et les femmes de la famille. Mais surtout, nous devrons détruire les Trollocs du Nord, pas seulement les contenir. Si nous leur donnons le temps de récupérer de leur marche forcée, ils attendront l'autre armée, puis, avec l'aide des Seigneurs de la Terreur, ils briseront Kairienne comme une simple noix. Elaine, il n'y a pas d'autre option. Nous devons attaquer et massacrer l'armée du Nord tant qu'elle est affaiblie. À ce prix, nous aurons une chance de tenir contre celle du Sud. En cas d'échec, l'étau se resserrera et nous écrabouillera.
C'est un risque que nous devons prendre,
dit Elaine.
Peaufine ton plan, pas chéri. Nous ferons en sorte qu'il réussisse.
Egwene entra en Tel Aran Riod. Le monde des rêves avait toujours été dangereux et imprévisible. Ces derniers temps, c'était encore pire. Dans le songe, le reflet de la belle cité de Théar était un cauchemar où les bâtiments semblaient érodés par une bonne centaine d'années de tempêtes incessantes. Le mur d'enceinte, désormais, ne mesurait plus qu'une dizaine de pieds de haut, le reste ayant été emporté par les vents. Et à l'intérieur, c'était la même chose avec les maisons et les boutiques. Les sangs glacés par ce spectacle, Egwene se tourna vers la pierre. Elle, au moins, n'avait pas changé. Haute, solide et insensible à l'agression des vents. Cette vision réconforta la jeune dirigeante. Elle se transporta dans le cœur de la citadelle où elle retrouverait les matriarches. Ça aussi, c'était réconfortant. Même en ces temps de tempête et de bouleversement, ces femmes étaient aussi solides que la pierre. Amys, Beyr et Melaine attendaient la chair d'Amerlin. Avant qu'elle remarque sa présence, Egwene surprit la fin de leur conversation.
« J'ai vu la même chose qu'elle, »
disait Beyr,
« mais à travers les yeux de mes propres descendants. Je pense que nous verrons toutes la même chose si nous y retournons pour la troisième fois. » « Ce devrait être obligatoire. »«
Trois visites ?»
fit Melaine.
« C'est un grand changement. Nous ne savons toujours pas si la deuxième montrera ces visions-là ou les anciennes. »
Consciente qu'elle écoutait aux portes, Egwene se racla la gorge. Aussitôt silencieuse, les matriarches se tournèrent vers elle.
« Je ne voulais pas vous déranger. »
fit la chère d'Amerlin. Marchant entre les colonnes, elle approcha des Aiel.
« Aucun problème, »
dit Beyr.
« Nous aurions dû tenir notre langue. C'est nous qui t'avons invité ici, après tout. »«
Je suis ravi de te voir, Egwene Alvéré, »
dit Melaine avec un sourire affectueux. Le ventre très rond, la matriarche ne devait pas être loin du terme.
« Selon les rapports, ton armée se couvre de djinns. Nous nous en sortons bien, oui, »
dit Egwene en s'asseyant sur le sol à côté des Aiel.
« Vous aurez aussi l'occasion de briller, Melaine. » « Le Karakarm procrastine !»
soupira Amys.
« Et les lances s'impatientent. Nous devons attaquer l'aveugleur. »« Le dragon aime travailler à ses plans, »
dit Egwene.
« Mes amis, je ne peux pas rester longtemps avec vous. Je dois le rencontrer un peu plus tard dans la journée. »«
Pour parler de quoi ?»
demanda Beyr, très curieuse.
« Je n'en sais rien, »
avoua Egwene.
« Sur le sol de ma tente, j'ai trouvé une lettre de lui. » Il veut me voir, mais pas comme le dragon rencontre la chair d'Amerlin. Comme deux vieux amis.
Dis-lui de ne plus tergiverser,
fit Beyr.
Mais nous devons te parler de quelque chose.
Quoi donc? As-tu déjà vu une chose pareille ?
Demanda Mélaine. Elle se concentra et le sol entre les femmes se craquela. Imposant sa volonté au monde des rêves, elle créait quelque chose qu'elle désirait montrer à Egwen. Au début, la jeune dirigeante fut déconcertée. Des fissures dans la pierre ? Bien entendu qu'elle en avait déjà vu. Avec les tremblements de terre qui se multipliaient ces derniers temps, c'était même un spectacle très commun. Sauf que ces fissures-là avaient quelque chose de particulier. En se penchant, Egwen vit qu'elle semblait s'ouvrir sur le néant. Une obscurité sans fond. Rien de naturel là-dedans.
Qu'est-ce que c'est ?
Nos guerriers nous disent avoir vu ce phénomène, expliqua Amys. Ceux qui se battent en Andorre et ceux qui luttent dans les terres dévastées avec Randaltor. On dirait qu'il s'agit de fissures dans la trame. Elles restent noires un moment, puis redeviennent de banales craquelures.
C'est un signe très dangereux, ajouta Beyr. Nous avons envoyé l'une des nôtres dans les terres frontalières où combat l'âne Mandragoran. Là-bas, ces fissures sont plus fréquentes.
Surtout quand les seigneurs de la terreur se battent, dit Amys. Et qu'ils utilisent le tissage qu'on nomme les torrents de feu.
Egwen en frissonna de peur.
Les torrents de feu affaiblissent la trame. Pendant la guerre du pouvoir, même les rejetés ont cessé de les utiliser, craignant de détisser le monde.
Alors, il faut prévenir nos alliés, dit Amys. Ils ne doivent pas recourir à ce tissage.
Les Aes Sedai n'en ont pas le droit,
révéla Egwen.
Mais je ferai savoir que personne ne devra passer outre cet interdit. C'est très sage de ta part,
approuva Mélaine.
Pour des femmes qui font si grand cas des règles et des lois, je trouve que les Aes Sedai sont très promptes à s'en exempter quand elles le peuvent. Nous faisons confiance à nos sœurs,
lâcha Egwen.
Les serments sont là pour les limiter. Sinon, c'est à leur propre sagesse de les guider. Si Moiraine n'avait pas violé la règle au sujet des torrents, Perrine serait mort. Même chose pour Matt, si Rand s'était montré trop pointilleux. Mais je parlerai à mes filles.
Les torrents de feu inquiétaient Egwen. Pas parce qu'ils existaient ou avaient tel ou tel effet, mais à cause de leur dangerosité. Pourtant, quand ils s'étaient rencontrés dans le monde des rêves, Perrine ne lui avait-il pas dit que c'était un tissage comme un autre ? Il semblait injuste que les ténèbres puissent recourir à une arme qui détissait la trame comme si elle s'effilochait. Face à ça, comment se défendre ? Et comment neutraliser ses effets ?
Nous ne t'avons pas fait venir seulement pour ça, Egwen Alvere,
dit Mélaine.
As-tu vu les changements dans le monde des rêves ?
Oui, ici la tempête est encore pire.
À partir de maintenant, dit Amys, nous ne viendrons plus très souvent. La décision est prise. De toute façon, même si nous nous plaignons un peu de lui, le Karakarn prépare bel et bien son armée à attaquer. Dans peu de temps, nous marcherons avec lui vers le fief du Ténébreux.
Qu'il en soit ainsi,
fit Egwen.
Je suis fier de toi, petite,
dit soudain Amys. Ce roc de femme semblait avoir des larmes aux yeux. Tout le monde se leva et Egwen enlaça les trois aïeuls.
Que la lumière vous protège, Amys, Mélaine et Beyr. Transmettez mon amour à toutes les autres.
Ce sera fait, Egwen Alvere,
assura Beyr.
Puisses-tu trouver de l'eau et de l'ombre, maintenant et à jamais.
Les trois aïeuls se volatilisèrent. Prenant une grande inspiration, Egwen leva les yeux. La pierre grinçait comme un navire pris dans un gros grain. Autour d'elle, la roche elle-même semblait osciller. Cet endroit, elle l'avait aimé. Pas la pierre, mais Telaran Riod. Elle y avait appris tant de choses. Alors qu'elle se préparait à en sortir, elle comprit qu'il était comme un fleuve en crue. Familier et aimé, peut-être, mais trop dangereux pour qu'elle s'y aventure. Surtout quand la Tour Blanche avait besoin d'elle.
« Au revoir à toi, Telaran Riod, mon vieil ami, »
souffla-t-elle.
« Jusqu'à ce que je rêve de nouveau. »
Egwen s'autorisa à se réveiller. Gawain attendait à côté du lit, comme d'habitude. Ils étaient revenus à la Tour Blanche, et Egwen habillée de pied en cap dans la chambre attenante à son bureau. Le soir n'était pas encore tombé, mais la convocation des matriarches ne comptait pas parmi celles qu'on ignore.
« Il est là !»
annonça Gawain, avec un coup d'œil pour la porte donnant sur le bureau.
« Dans ce cas, rejoignons-le. »
Elle se leva et tira sur sa robe. Puis elle fit un petit signe à Gawain. Ensemble, ils allèrent à la rencontre du dragon réincarné. Flanqué de deux promises qu'Egwen ne connaissait pas, Rand sourit quand il vit sa vieille amie.
« C'est à quel sujet ?»
demanda celle-ci d'une voix lasse.
« Me convaincre de briser les sceaux ?
Tu es devenu cynique.
Lors de nos deux dernières rencontres, tu as tout fait pour me mettre en rage. Et je devrais m'attendre à autre chose?
Te mettre en rage? Non, je ne suis pas là pour ça. Regarde plutôt.
Rand sortit de sa poche un très joli ruban.
Tiens, c'est pour toi. Tu en cherchais tout le temps pour te nouer les cheveux.
Tu sous-entends que je suis une enfant?
Demanda Egwene, agacée. Pour la réconforter, Gawain lui posa une main sur l'épaule.
Quoi? Mais non! Egwene, je veux m'excuser. Pour moi, tu es comme une sœur. Je n'ai jamais eu de frère ou de sœur. Ou du moins, j'ai un frère, mais il ne me connaît pas. Il n'y avait que toi. Je ne cherche pas à t'énerver.
Un instant, Rand ressembla au garçon innocent et loyal qu'il était. Du coup, Egwene en oublia sa frustration.
Rand, je suis occupé. Nous le sommes tous. Les choses comme ça devront attendre. Tes soldats s'impatientent.
Leur tour viendra bientôt. Avant que ce soit fini, ils se demanderont pourquoi ils étaient si pressés. Et ils penseront avec mélancolie aux jours passés à attendre.
Le ruban toujours à la main, Rand serra le poing.
Je ne voulais pas partir me battre en restant sur une dispute avec toi. Même si le sujet était capital.
Rand, Rand.
Egwene avança, prit le ruban et enlaça son vieil ami. Ces derniers temps, il n'avait pas été facile à vivre. Mais il était arrivé à Egwene de penser la même chose de ses parents.
Je te soutiens, Rand. Ça ne veut pas dire que je briserai les sceaux, mais je te soutiens.
Egwene s'écarta de Rand. Pas question d'avoir les larmes aux yeux, même s'ils se faisaient à l'évidence leurs adieux.
Un moment,
dit soudain Gawain.
Un frère? Tu aurais un frère? Je suis le fils de Tigraine,
dit Rand en haussant les épaules.
Né après qu'elle fut allée dans le désert des Aiel pour devenir une promise.
Alors qu'Egwene avait compris depuis des lustres, Gawain en resta comme foudroyé.
Tu es le frère de Galad?
Demi-frère. Pour un fils de la lumière, ça ne signifierait pas grand-chose. Nous avons la même mère. Son père, comme le tien, était Taringale. Mais le mien était un Aiel.
Je crois que Galad te surprendrait,
souffla Gawain.
Alors, Elaine?
Je ne vais pas te raconter l'histoire de ta famille, mais Elaine n'a aucun lien de parenté avec moi.
Rand se tourna vers Egwene.
Puis-je les voir? Les sceaux, je veux dire. Avant de partir pour le mont Shagalghul, j'aimerais les regarder une dernière fois. Je te promets de ne rien leur faire.
À contre-cœur, Egwene sortit les artefacts de la bourse où elle les rangeait. Toujours sonné, Gawain approcha de la fenêtre, l'ouvrit et laissa entrer dans le bureau la lumière de la fin d'après-midi. La tour blanche était si tranquille. Ses armées parties, ses maîtresses à la guerre. Egwene déballa le premier sceau et le tendit à Rand. Juste au cas où, pas question de lui confier les trois en même temps. Bon, elle lui faisait confiance, mais était-on jamais trop prudent? Rand étudia le sceau comme s'il cherchait la sagesse dans ses lignes sinueuses.
« Je les ai fabriqués, » dit-il, « pour qu'ils ne se brisent jamais. Pourtant, en le faisant, je savais qu'il faiblirait un jour. Tout se délite quand il y touche. »
Egwene tendit un autre sceau, mais en le tenant fermement. Le briser accidentellement n'aurait pas été très malin. Dans sa bourse remplie de tissus, les artefacts étaient soigneusement emballés. Elle se décomposait à l'idée de les casser. Mais Moiraine avait affirmé qu'elle le ferait. Pour elle, ça n'avait pas de sens. Mais les mots qu'elle avait lus, plus les propos de Moiraine, eh bien, si l'heure de briser les sceaux sonnait un jour, il faudrait qu'elle les ait à portée de la main. En conséquence, elle portait sur elle des objets qui pouvaient provoquer la disparition du monde. Rand devint soudain aussi pâle qu'un mort.
« Egwene, ça ne m'abuse pas. »«
Que veux-tu dire ?»«
C'est un faux !» Ça n'est pas grave. Mais dis-moi la vérité. Tu as fait fabriquer des copies et j'en tiens une en main.
Je n'ai rien fait de tel.
Par la lumière, c'est un faux! Un faux!
Quoi?
Egwene reprit le sceau, le toucha et ne sentit rien de spécial.
Comment peux-tu en être sûr?
Je les ai créés! Mon travail, je sais le reconnaître. Ce n'est pas un des sceaux, c'est... Quelqu'un les a volés!
Depuis que tu me les as remis, ils ne m'ont pas quitté une seconde.
Alors ça s'est passé avant. Après les avoir trouvés, je ne les ai pas examinés de près. Il a su d'une façon ou d'une autre où je les avais cachés.
Rand prit le deuxième sceau et secoua la tête.
Un faux.
Il s'empara du troisième.
Celui-là aussi. Egwene, c'est lui qui les a.
Je ne sais comment, il les a volés. Le ténébreux détient les clés de sa prison.
Durant la plus grande partie de sa vie, Matt aurait donné cher pour que les gens le regardent le moins possible. Parce que sinon, il plissait le front, accusateur, devant tous les problèmes dont il était à l'évidence la cause, alors qu'en réalité, il n'avait rien fait du tout. Sans parler des coups d'œil désapprobateurs quand il se baladait innocemment avec pour seul objectif d'être agréable et souriant. Quel garçon ne chipait pas une tourte de temps en temps? Rien de grave là-dedans. C'était ne pas le faire qui aurait été inquiétant. Mais la vie avait été plus dure pour Matt que pour les autres garçons. Sans aucune raison, tout le monde le tenait à l'œil. Perrine, lui, aurait pu voler des tourtes à longueur de journée. Les gens lui auraient souri, ébouriffant ses cheveux. Matt, ses brutes le chargeaient avec un balai en main. Quand il entrait dans une salle de jeu, il attirait aussi les regards, comme s'il était là pour tricher, ce qu'il n'avait jamais fait, ou comme si les autres joueurs l'enviaient. Bref, depuis toujours, à ses yeux, passer inaperçu était un plaisir d'esthète. De quoi faire sauter le bouchon d'une bonne bouteille, histoire de fêter ça. Aujourd'hui, son vœu était exaucé, et ça le rendait malade.
« Tu pourrais me regarder !»
s'indigna-t-il.
« Vraiment ? Que la lumière te brûle, tu pourrais ?»«
Si je le faisais, je devrais baisser les yeux, »
répondit la servante qui empilait des carrés de tissu sur une table basse placée contre le mur.
« Tes yeux sont déjà baissés, rivés sur le sol même. Je veux que tu les lèves !»
La Seanchanienne continua à travailler. Le teint clair, des taches de rousseur sous les yeux, elle était agréable à regarder, même pour quelqu'un qui préférait les nuances plus sombres ces derniers temps. Cela dit, si cette fille lui avait souri, ça ne lui aurait pas déplu. Comment parler à une femme quand on ne pouvait pas essayer de la faire sourire? D'autres servantes entrèrent, les yeux baissés et du tissu sur les bras. Matt était dans ce qui devait être ses appartements au palais. Un fief bien trop grand pour ses besoins. Si Talmanès et quelques bras rouges venaient s'installer avec lui, les lieux paraîtraient peut-être moins vides. Matt approcha de la fenêtre. En bas, sur l'esplanade Mol Hara, une armée se mettait en formation. Apparemment, ça risquait de prendre plus longtemps que le jeune flambeur l'aurait voulu. Le général Galgan, Matt l'avait à peine croisé et il se méfiait de lui, quoique dise Tuon sur les tueurs incompétents qu'il engageait, rassemblait les forces du Seanchan retirées des frontières, mais beaucoup trop lentement. À cause de ce repli, il craignait de perdre la plaine d'Almoth. Matt n'avait trouvé aucune raison d'apprécier ce type. En plus, s'il traînait les pieds pour ça...
« Très honoré ?»
demanda la servante. Matt se retourna et arqua un sourcil. Plusieurs d'Akovalé étant arrivés avec la livraison de tissus, il les vit enfin et rougit jusqu'à la racine des cheveux. Ces gens ne portaient presque rien, et ce presque rien était transparent. Bon, Matt pouvait jeter un coup d'œil, non? Si les femmes avaient voulu qu'on ne les regarde pas, elles se seraient couvertes. D'accord, mais qu'en penserait Tuon?
Je ne suis pas à elle,
pensa Matt avec une inflexible détermination.
« Je ne serai pas maritalisé par cette femme !»
La servante aux taches de rousseur, une Sojin, la moitié de la tête rasée, désigna la femme qui était entrée à la traîne des Kovalais. D'âge mûr, les cheveux noirs en chignon, elle n'avait pas un pouce du crâne rasé. La silhouette en forme de poire, elle affichait un sourire maternel. Sans vergogne, elle étudia Matt. Quel bonheur, quelqu'un qui le regardait enfin. Dommage que cet inconnu le fasse tellement penser à un maquignon qui achète des chevaux au marché.
« Noir pour son nouveau statut, »
fit la femme en tapant dans ses mains.
« Vert pour son héritage. Un vert sombre, comme celui d'une forêt. Que quelqu'un aille chercher des bandeaux pour son œil et qu'on brûle cet affreux chapeau.
Quoi ?»
s'écria Matt, tandis que les servantes s'agitaient autour de lui pour lui subtiliser ses frusques.
« Minute, papillon ! Que se passe-t-il ?
Tes nouvelles tenues, très honorées. Je me nomme Nata, et je serai ta couturière personnelle. »
« Pas question de brûler mon chapeau ! Essaie, et nous verrons si tu peux voler quand on jette du quatrième étage. Tu as pigé ?»
La couturière hésita.
« Oui, très honorée. Qu'on ne brûle pas ses habits, conservez-les. » au cas où il en aurait besoin un jour. »
Nata semblait douter que ça arriverait. Alors que Matt ouvrait la bouche pour protester, une des Dakovalais souleva le couvercle d'un coffret. Dedans, des bijoux brillaient, rubis, émeraudes, gouttes de feu. Matt en eut la gargamelle coincée. Dans ce coffret, il y avait une fortune. Sonné, il s'aperçut à peine que les servantes le déshabillaient. Quand elles s'en prirent à sa chemise, il les laissa faire, mais s'accrocha cependant à son foulard. Ses joues rouges, déduisit-il, n'avaient aucun lien avec le fait que des femmes lui retiraient son pantalon. L'explication, c'était la surprise. Un des serviteurs esquissa un geste vers les sous-vêtements du jeune flambeur.
« Sans aucun doigt aux mains, tu serais amusant à regarder !»
grogna ce dernier. Le dac au valet écarquilla les yeux et blêmit. La tête baissée, il s'inclina et recula. Matt n'était pas pudibond, mais les sous-vêtements, c'était sacré. Nata eut un claquement de langue. Aussitôt, les servantes commencèrent à draper Matt de tissu. Du vert foncé si sombre qu'on le distinguait à peine du noir qui l'accompagnait.
« Nous allons devoir te confectionner une garde-robe qui couvre les combats, les fêtes de cour, les fonctions privées et les apparitions en public. C'est... »«
Non !»
dit Matt.
« L'armée suffira. »«
Mais... »«
Femme, nous en sommes à l'ultime bataille. Si nous survivons, tu pourras me faire confectionner un joli chapeau pour les jours de fête. Tant que nous serons en guerre, ça me suffira. »
La servante hocha la tête. Non sans mécontentement, Matt se leva, les bras sur le côté, et laissa les couturières prendre des mesures puis l'envelopper dans du tissu. S'il devait accepter qu'on lui lance tout le temps un « très honoré » ou un « votre grandeur », il pouvait au moins être attifé convenablement. De plus, il avait fini par se lasser de ses anciens vêtements. La couturière Sehan Chanyen se montra très économe en dentelle, une véritable honte. Mais Matt refusa de faire comme s'il connaissait mieux son métier qu'elle. Enfin, un homme ne pouvait pas se plaindre de tout. Les gens n'aimaient pas les geignards. Et lui non plus. Alors que les autres s'occupaient des mesures, une servante approcha, avec un coffret où était exposée une collection de bandeaux. Le jeune flambeur hésita devant cet étalage de richesses, car chaque modèle était orné d'éclats de gemmes et de grosses pierres.
« Celui-ci, »
dit Matt en désignant le dernier modèle de la rangée. Un bandeau noir avec seulement deux rubis très bien taillés et fixés aux deux bouts de la tache. Toujours pendant les mesures, on fit essayer l'accessoire au prince des corbeaux. Quand le bandeau fut en place, Nata ordonna à ses filles de vêtir Matt de la tenue qu'elle avait apportée. De toute évidence, en attendant que sa nouvelle garde-robe soit terminée, il n'aurait pas le droit de remettre ses vieux vêtements. La tenue se révéla assez simple. Une longue tunique d'excellente qualité pour l'essentiel. Matt aurait préféré un pantalon, mais ça irait, question confort. En revanche, les filles la recouvrirent avec une sorte de robe plus raide. De la soie vert sombre outrageusement brodée de motifs entrelacés. Assez grande pour laisser passer un cheval, les manches pesaient des tonnes.
« J'ai cru demander une tenue de guerrier !»
s'écria Matt.
« C'en est une !» répondit Nata. L'uniforme de cérémonie d'un militaire membre de la famille impériale. En toi, beaucoup de gens verront avant tout un étranger. Aucun n'osera douter de ta loyauté, mais il serait préférable que tes soldats te considèrent d'abord comme le prince des corbeaux et ensuite comme une pièce rapportée. Es-tu d'accord ?
« J'imagine, oui. »
Les servantes continuèrent en bouclant une ceinture ornementée autour de la taille de Matt, puis en plaçant des bandes du même style autour de ses avant-bras, sous les manches géantes. La ceinture était une bonne chose, se dit le jeune flambeur, parce qu'elle lui amincissait la taille, qui aurait sinon paru éléphantesque avec l'espèce de robe à mi-donnée. Manque de chance, l'accessoire vestimentaire suivant fut le plus ridicule de tous. Une sorte de tabard, lui aussi à mi-donnée, qui pesait un quintal mais était ouvert sur les côtés, donnant l'impression qu'il portait un tablier sur le torse et dans le dos. Un tablier si large sur les épaules qu'il aurait sans doute du mal à passer certaines portes. Comme s'il était enfermé dans une armure de tissu.
« Dis donc, Nata, »
fit Matt.
« Ce ne serait pas une farce que vous me faites parce que je viens de débarquer ?»«
Une farce, très honorée ?»«
Tu ne peux pas... »
Matt se tut, car quelqu'un passait devant sa porte ouverte. Un officier, aurait-on dit. Vêtu d'un uniforme semblable au sien en moins ornementé et surtout en moins large. La tenue de cérémonie d'un membre du sang, apparemment, mais pas apparenté à la famille impériale. Quoi qu'il en soit, ses atours étaient presque aussi somptueux que les siens. Le type s'arrêta, s'inclina devant Matt, puis continua son chemin.
« Que la lumière me brûle !»
grogna le jeune flambeur. Nata claqua de nouveau dans ses mains, et les Dakovalais entreprirent de surcharger Matt de pierres précieuses. Des rubis, pour l'essentiel, ce qui le mit très mal à l'aise. Mais c'était sûrement une coïncidence, pas vrai? Sur le coup, le jeune flambeur ne sut pas ce qu'il devait penser de cette quincaillerie. La vendre, peut-être, ou jouer avec. S'il posait ça sur une table de jeu, il finirait la soirée propriétaire de tous les bâtiments des Boudards.
« La ville est déjà à Tuon, s'avisa-t-il. Et je l'ai épousée. »
Conclusion, il était un homme riche, richissime même. S'asseyant, il se laissa laquer les ongles et réfléchit aux conséquences de toute cette affaire. Au sujet de l'argent, ça faisait un moment qu'il ne s'inquiétait plus, puisqu'il pouvait toujours en gagner au jeu. Mais là, ça changeait tout. S'il avait tout ce qu'on peut avoir, à quoi bon jouer? Certes, mais ça ne promettait pas d'être amusant comme vie. Les gens n'étaient pas censés couvrir un type de bijoux. Il devait au contraire s'enrichir en comptant sur son intelligence, sa chance ou son talent. La séance de laquage terminée, le jeune flambeur baissa les bras.
« Que la lumière me brûle! Voilà que je suis un fichu noble !»
Il soupira, arracha son chapeau des mains d'une servante stupéfiée qui passait devant lui avec sa vieille frusque, et le vissa sur sa tête.
« Très honoré !» dit Nata. « Pardonne mon audace, mais il est dans mes attributions de te conseiller sur la mode. Avec cet uniforme, ton chapeau jure atrocement. »
« Et alors ?»
lança Matt en se dirigeant vers la porte, qu'il faillit devoir franchir en se mettant de profil.
« Si je dois avoir l'air d'un bouffon, autant faire ça avec panache. Quelqu'un peut me conduire à l'endroit où vos maudits généraux se réunissent ? J'aimerais savoir à quoi ressemblent nos troupes. »